Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International de cette deuxième édition qui suit un match un peu de fou. Espagne-Portugal donc en finale de la Ligue des Nations 2025. La France sortie, mais quel match, quel spectacle finalement. Le score de 5 à 4 dit bien une demi-finale inattendue à laquelle nous avons assisté. Les Bleus ont évité l'humiliation car ils ont été menés à un moment largement au score 5 à 1, mais ils sont éliminés. Araujo a étouffé ses adversaires en début de partie. Doublé de l'intenable Lamine Yamal. On va tenter de vous expliquer ce qui s'est passé durant ce match. Antoine Grenier, que vous avez entendu, est toujours avec nous. Et puis il y a vous, messieurs, Patrick Juillard, bonsoir.
Bonsoir Annie, que d'émotions.
On est essoufflés finalement après un match pareil. Cher Yves Guillemot, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
On est comme eux, un peu sur la pelouse finalement. Ils nous transmettent ça, on passe par toutes les émotions. Ouais. Le Portugal qualifié hier soir grâce au but vainqueur de l'éternel Cristiano Ronaldo. Les Portugais ont donc sorti les Allemands sur leur pelouse de Munich, poussés notamment par la folie de leur talent et le talent de leur jeune joueur récemment sacré dans les rangs du PSG, Vitinha, João Neves et Nunes. Par exemple, dur par contre pour la Mannschaft de Julian Nagelsmann. Clap de début pour Carlo Ancelotti. Cette nuit, il dirigera la Seleção do Brasil pour son premier match en Équateur. Les Brésiliens ont bien accueilli l'Italien. À quel match faut-il s'attendre? David Finzel et Laurent Salerno sont là, fidèles au rendez-vous. Moi aussi. Et Radio Foot, c'est parti.
Yamal, il a réussi à trouver Oyarzabal, la frappe de Nico Williams, c'est le but espagnol! Ouverture du score de l'Espagne. Attention vers Merino, la frappe, et 2-2 pour l'Espagne! C'est parti, Lamine Yamal, contre-pied parfait, 3-0 pour l'Espagne! Nico Williams à l'entrée de la surface, Oyarzabal, le contrôle d'Oyarzabal, et le quatrième but espagnol! Le quatrième but espagnol, il est signé Pedri. Ça vire à la démonstration, ça vire à la correction. Et le capitaine des Bleus qui prend son élan, qui frappe et c'est dedans. Réduction de l'écart par Kylian Mbappé. L'équipe de France revient à 4 buts à 1. Lamine Yamal dans la surface, Lamine Yamal au contact avec l'Anglais. Lamine Yamal, mais comment il réussit ça? Le but de Lamine Yamal, 5 buts à 1 dans cette demi-finale de Ligue des Nations. Là, la frappe de Cherki. Quel but de Ryan Cherki. Celui-là, il est allé le chercher tout seul. Quel but pour l'attaquant lyonnais. Le centre de Malogusto, le but. La réduction des corps, le but contre son camp. La France revient à 5 buts à 3. Le centre de Cherki, il est bon ce centre. Et le 5-4 pour l'équipe de France. Le centre parfait, millimétré sur la tête de Randall Kolo Muani. 5 buts à 4 alors qu'il reste 1 minute 30 à jouer. Quel suspense! Quel suspense maintenu par les Bleus!
Alors en assistant à ce match, en reprenant son souffle, on a eu l'impression peut-être de revivre un mauvais film. Messieurs, non, la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar?
Oui.
Il y a quelques comparaisons quand même.
Oui, dans une équipe totalement dominée, enfin une équipe de France totalement dominée, totalement à la rue. Alors évidemment, c'était pas le même score hein, contre l'Argentine, c'était que 2-0. Mais moi, l'impression persistante, justement, par rapport au terme cauchemar, le match est absolument désastreux. Mais on va y venir.
Quel qualificatif vous auriez, Patrick Juillard?
Je sais pas, je dirais renversant pour un mélange de renversant et de frustrant en fait. Je sais pas, c'est un mot hybride, mais c'est comme l'équipe.
T'es plus optimiste que moi.
Non, mais c'est comme l'équipe, c'est-à-dire qu'elle est capable du pire comme du pire, mais parfois du meilleur. Donc c'est un peu bizarre.
Eh bien, allons tout de suite du côté de Stuttgart pour retrouver notre ami Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
Alors Antoine, vous, quel qualificatif auriez-vous?
Réduire ça à un seul mot, honnêtement, ça va être très très compliqué. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, dans l'histoire d'une sélection, il y a des victoires insignifiantes et des défaites d'anthologie. On vient d'assister à une défaite d'anthologie, très clairement. Après, ça n'est que la Ligue des Nations. Mais oui, il faut se dire qu'au moins, on a assisté à un match de fou. Et de temps en temps, ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien parce qu'en plus, Antoine, quand même, avec Didier Deschamps, alors hormis cette finale de Coupe du Monde, là, on était quand même au sommet et on n'avait plus trop le choix. Mais ce n'est pas des matchs qu'il doit apprécier, lui, j'imagine.
Ah non, non. Bah, un match où son équipe prend 5 buts, il va certainement avoir une bonne crise d'urticaire et en tout cas, il va bien secouer ses joueurs, même si il faut reconnaître que la réaction ensuite, à partir de l'heure de jeu, a été un petit peu encourageante et lui donne peut-être quelques petits fils à tirer, même si la pelote est maigre. Mais clairement, la principale comparaison qu'on puisse faire avec la finale de la Coupe du Monde 2022, c'est que l'équipe de France n'a joué qu'une partie du match.
Exactement.
Et qu'à la fin, elle a perdu.
Mmh, oui, et qu'elle est éliminée ou qu'elle perce le titre. Antoine, parlons quand même des Espagnols déjà pour commencer, parce qu'eux sont qualifiés, ils seront en finale. Duel fratricide insulaire, péninsulaire, entre les Portugais et les Espagnols. Très bons voisins, mais peut-être adversaires historiques sur le plan footballistique. Vous parliez de football pop-corn pendant la retransmission. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vrai qu'on a eu une sensation de facilité, de légèreté en voyant ces Espagnols jouer.
Oui, ça pouvait venir de partout, en fait. C'est ça, le football pop-corn. C'est-à-dire que vous avez 11 joueurs et que les 11 joueurs participent à leur manière et apportent quelque chose. Alors, on a un Unai Simon qui a longtemps, même s'il finit par aller chercher 4 fois le ballon dans ses cages, qui a été énorme pendant une très grosse partie du match. Et puis, bah, vous avez du Nico Williams, vous avez du Mikel Oyarzabal, vous avez du Mikel Merino, vous avez du Pedri, vous avez du Lamine Yamal. Ça peut marquer, ça peut passer. Ça a mis au supplice une défense française, on l'avait dit, expérimentale, mais qui a honnêtement pas du tout été au niveau d'un rendez-vous comme celui-là. Et cette équipe espagnole, on la savait en confiance. Elle restait sur 18 matchs sans défaite, donc ça fait maintenant 19. Et elle a montré qu'elle était sûre de son fait, elle était sûre de son football et que on est capable de la faire douter, cette équipe. Mais personne pour l'instant n'est capable de la battre.
Chérif Guémour, est-ce que vous avez apprécié aussi cette jeunesse insouciante espagnole ?
Ça fait peur, ça fait peur. Parce que les Espagnols, on les a joués l'année dernière à l'Euro, on les retrouve cette année. C'est marrant parce qu'avant le match, on se dit l'Espagne est favorite, on va voir s'il y a une réaction française, s'il y a eu du progrès, si on va rester un peu dans la dynamique de celle qu'on a vue avec Paris, même si c'est un club, hein, je sais bien. Et en fait, pas du tout, comme vous dites, c'est la facilité. On commentait les matchs. Hein, c'est...
Juste une chose quand même, et on y reviendra, mais la décharge des Français par rapport à ce match de l'année dernière, la défense était quand même décimée, là. Non, bon, on en parlera après. Continuons sur l'Espagne.
Non, parce que, comment dire...
Continuons sur l'Espagne.
Ouais, c'est cette façon qu'ils ont, justement, d'être clinique, mais pas clinique dans le sens des buts, des contres mortels qui font mal dans le dos, c'est pas ça. La plupart des buts, ils les ont marqués sur les actions placées.
C'est un peu artiste.
Ouais, voilà, à une touche de balle. Et je pense que n'importe quelle défense aurait pris, alors peut-être pas 5 buts, mais la façon dont ils ont, de jouer ensemble, voilà, on en a parlé.
L'harmonie, hein, on dirait.
L'harmonie,
quand même, hein.
L'harmonie, mais comment ça s'appelle quand on veut toucher du doigt cette excellence, je vous renverrai au match d'avant, c'était en quart de finale, c'était Pays-Bas-Espagne, 3-2 à la lutte pour les Pays-Bas, 3-2 pour l'Espagne au match retour. On a deux écoles de jeu, c'est parfaitement lisible, les joueurs rentrent et sortent, ça ne bouge pas. Et là, on voit l'équipe de France, c'est clairement pas du tout, la France n'a pas du tout cette culture.
Non, on l'a bien vu avec les changements.
Le 5-4, alors pour revenir au score, pour le 5-4, moi je pense que la vraie traduction aujourd'hui, c'est 3-0. Je dirais qu'il y a 2-3 classes d'écart entre la France et l'Espagne. Ce qui me fait dire que l'année prochaine, si on les retrouve en Coupe du Monde, parce que je pense que les deux équipes, on va encore perdre. Alors on va perdre quoi ? 2-0, 3-0, 3-1, mais peu importe.
Pas pour enfoncer l'équipe de France, mais le 5-4, il est forcément un peu trompeur, puisque les buts français, ils interviennent au moment où l'Espagne s'est assuré une avance énorme, pense déjà à sa finale, fait tourner et arrête un peu de jouer, et donc subit plus que de raison cette équipe de France. Et moi, j'ajouterais que C'est très politique parce que Didier Deschamps ce soir avait aligné une équipe sur le papier très offensive avec à la fois Désiré Doué et Michael Olysee et à la fois Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, les quatre en même temps. Or, si on regarde bien la manière dont ils ont été, ils se sont distribués les rôles sur le terrain, ils sont constamment marchés sur les pieds. C'était deux doublons. Il y avait en fait quatre joueurs, mais en fait c'est comme s'il n'y en avait eu que deux qui jouaient. Ça n'a jamais fonctionné. Et en deuxième mi-temps, en faisant jouer des remplaçants, des joueurs supposément moins hauts dans la hiérarchie, ça a mieux marché. Parce que quand vous avez Barcola, qui est un pur ailier gauche, qui ne passe pas son temps à aller dans l'axe, quand vous avez Cherki, qui est un vrai meneur de jeu, et pas un joueur qui passe son temps entre le côté et l'axe comme Olysee, et que vous avez Colomouani, qui est un pur avant-centre à la Olivier Giroud, qui reste dans l'axe du but, c'est peut-être au total moins talentueux, même si sur Cherki, on est à un très haut niveau. Mais ça marche mieux parce que les rôles sont mieux répartis. Et je pense aussi que Mbappé, on a un problème avec Mbappé avant-centre.
On était encore sur l'Espagne, là, Patrick.
Ah oui, mais moi, je pense qu'à la France, là. Quand même, c'est l'événement du soir, c'est le niveau de la France. Ce n'est pas le bon niveau de l'Espagne.
On va écouter Didier Deschamps, le sélectionneur des Français, pour passer à cette première analyse. Bravo les Espagnols, felicidades. On vous retrouve en finale, la grande finale, comme avait dit Didier Deschamps tout à l'heure. Et écoutons-le, le sélectionneur français.
C'est un mélange de sentiments. Déjà, à la fin de la première mi-temps, c'est très sévère qu'on soit mené 2-0 parce qu'on a eu beaucoup de situations, d'occasions. Mais après, voilà, c'est vrai qu'on a été mené 5-1, mais on n'a pas renoncé et on aurait pu les faire trembler un peu plus sur la fin. Donc il n'y a pas tout à jeter. On a fait beaucoup de bonnes choses. On a une maîtrise qui était supérieure à cette équipe d'Espagne. C'est très très rare. Et le fait de ne pas avoir été efficace, évidemment, si on prend 5 buts, c'est qu'on peut mieux faire sur le plan défensif, mais dans les intentions et la qualité de jeu qu'on a eu. Et c'est moi qui vous dis ça. Donc forcément, c'est rageant, même si en face, on a du très très haut niveau aussi. Et c'est pas pour rien qu'ils ont une opportunité. Ils sont souvent très efficaces.
Bon alors Didier Deschamps, on l'écoute et on est plutôt d'accord quand il dit que le score est peut-être très sévère ou que son équipe n'avait pas renoncé. On va y revenir sur les problèmes de défense et sur peut-être aussi tous ces attaquants. Mais là, Patrick, se regardait en écoutant Didier Deschamps. Il y a un mot incroyable, c'est quand il dit que l'équipe de France a eu plus de maîtrise que les Espagnols.
Je pense que c'est une méprise. Non, mais c'est là, on tombe des nues. Ça me rappelle Rigobert Song, après l'élimination du Cameroun par le Nigeria, qui dit que son équipe a fait jeu égal avec le Nigeria à la dernière CAN. C'est à peu près du même niveau de manque de lucidité totale. Ou alors, c'est que la citation n'est pas tronquée. Hein, donc,
Ah ben non, elle est telle qu'elle. Ouais. Antoine, vous aussi, l'oreille s'est dressée ?
Ah oui, très clairement, très clairement, parce que il faut.
Choses sans doute positives, mais la maîtrise.
Non, mais on peut honnêtement établir un parallèle entre la demi-finale de l'Euro il y a un an et ce match-là, c'est-à-dire que ce sont deux rencontres qui, au score, se jouent à un but, mais dans le contenu, ça n'a rien à voir. C'était deux équipes qui n'étaient absolument pas sur la même planète ce soir. Les bleus font illusion parce que finalement il y a ce moment de folie à la fin où ça enchaîne et parce que Didier Deschamps a fait des changements et notamment on en parlera de Ryan Cherki qui pour une première sélection a juste crevé l'écran.
Bien sûr.
Au-delà de ça, pendant une heure, même plus d'une heure, mais c'est une boucherie absolue, c'est-à-dire que Lamine Yamal fait exactement ce qu'il veut sur le terrain. Nico Williams, il est dangereux quand il veut être dangereux. Le milieu de terrain espagnol n'a aucune difficulté face au milieu de terrain français. On ne voit pas Michael Olysee de toute la première période, très clairement. Finalement, on ne s'aperçoit qu'il est là que parce que le speaker annonce changement. Bref, cette équipe de France est passée à travers. Elle s'en sort avec les honneurs parce que finalement elle a réussi à mettre 4 buts, mais dans le contenu c'était très insuffisant.
Chérif Guémour.
Oui, alors déjà, on a parlé de la défense expérimentale française, mais on peut parler du milieu espagnol. Je rappelle quand même que le milieu habituel c'est Olmo, Fabián Ruiz et Rodri. Rodri n'était pas là, Fabián Ruiz et Olmo sont entre cours de manche. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'Espagne a joué avec un milieu allez, B ou A'. Hein.
Bah, le milieu expérimental espagnol était meilleur que la défense expérimentale française
tu vois,
hein, ce soir.
Tu vois, donc,
le réservoir n'est pas le même.
Donc on est d'accord.
Est-ce qu'il s'est trompé dans son 11 de départ alors Didier Deschamps?
En attaque, c'est sûr.
Non, bah, en défense, il n'y avait peut-être pas le choix, mais en attaque,
sincèrement.
Puisque les rentrées renforcent quand même un peu ce côté.
Pour moi, c'est pas un problème de niveau, c'est un problème de complémentarité. C'est-à-dire que Doué, Olise, c'est un peu le même joueur. Et Deschamps et le Dembélé nouveau de façon Luis Enrique, c'est un peu le même joueur aussi. C'est problématique. Ou alors, il fallait qu'ils se répartissent mieux les rôles, qu'ils. Mais je pense que ça n'a pas été travaillé.
Tout ce que tu dis est exact, Patrick. Je suis d'accord avec toi. Ils se sont marchés sur les pieds. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de registre particulièrement défini. Mais je pense quand même qu'ils auraient été battus. Et quant aux entrants, c'est au moment où l'Espagne s'est arrêtée de jouer.
Aussi. On va rappeler en trompe-l'œil, comme on l'a dit.
Score qui ne va plus se marquer, c'est qu'à un moment, l'équipe de France est menée 5-1.
5-1, ah oui, exactement.
Donc, voilà.
Antoine, on avait quand même l'impression en première mi-temps et au début pour l'équipe de France que rien n'allait. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des tentatives et il y a quand même eu aussi de gros ratés. Alors bon, après, je pense à ce ballon d'Ousmane Dembélé qui lèche le poteau et qui ne rentre pas. Il y a eu des ratés aussi d'autres tirs qui finalement
n'aboutissent
pas aussi. Il y avait une inefficacité assez criante.
Oui, vous pouvez rajouter la transversale de Théo Hernandez à la 12e minute. Mmh. Les Bleus ont eu les occasions. Ils se sont, mine
c'est
de rien...
C'est inhabituel quand même, ce manque d'efficacité.
Bah, c'est inhabituel et finalement pas tant que ça, parce que Ousmane Dembélé, avant de vraiment faire une excellente deuxième partie de saison, Ousmane Dembélé, qu'est-ce qu'on lui a toujours reproché, que ce soit au PSG ou en équipe de France
de
ou même à Barcelone, c'était de vendanger. Et ce soir, on a retrouvé le Dembélé des vendanges. Et,
c'est bientôt la saison.
Il y a un manque de réussite. C'est évident, mais ça ne doit pas masquer les insuffisances du côté de cette équipe de France qui a été plus que largement dominée et n'a jamais été dans le contrôle du match. Elle n'a eu finalement le contrôle de la partie qu'au moment où le contrôle a échappé à tout le monde, c'est-à-dire au moment où plus personne n'était volant.
Il y avait un grain de folie. On va écouter Kylian Mbappé qui répondait, hein, tout comme Didier Deschamps, à nos confrères de TF1 qui ont l'exclusivité de la retransmission. Écoutons le capitaine des Bleus, très en colère.
À chaud comme ça, je vous dirais qu'on a bien joué aujourd'hui. On a eu des séquences de jeu qu'on n'a pas eu depuis longtemps. On a su garder le ballon, avoir une structure, réussir à ce qu'il y ait pas mal d'opportunités. Mais le problème, c'est qu'on a eu 10 minutes de trou en première mi-temps, on prend 2 buts. 10 minutes de trou en deuxième mi-temps, on prend 2 buts. Et ça se paye cash dans les matchs de haut niveau, mais c'est encourageant. Comme j'ai dit, on a un long chemin vers la Coupe du Monde. Il faut chaque fois tirer des leçons de chaque match qu'on joue. Et je pense que c'est quand même encourageant. Après, c'est pas suffisant parce qu'on gagne pas et qu'on n'est pas constant sur les 90 minutes, mais il y a du mieux. C'est sûr que quand on sort pas avec la victoire, il y a toujours les points négatifs qui vont ressortir, mais je pense qu'il n'y a pas que du négatif à tirer ce soir. Après, on a les boules, c'est normal, parce qu'on voulait gagner, on a joué avec envie, on voulait vraiment remonter le score, mais au final, on a perdu et voilà, on est frustré.
Brut, cash et assez sincère finalement.
Oui, je trouve qu'il est plus proche de la vérité du match que son sélectionneur. Hein. Une fois n'est pas forcément coutume. Les minutes de trou, il y en a peut-être un peu plus que 10 de part et d'autre.
2 fois 10, il dit, donc ça ferait 20.
Du retour au vestiaire, sachant que l'Espagne, par exemple, a un but refusé pour hors-jeu de Huijsen à la 44e. Donc la France a pris l'eau plus que 10 minutes. Mais. Au-delà de ça, effectivement, tout n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que la France ne concrétise pas ses quelques temps forts au début du match. Elle peut mener, elle ne le fait pas parce qu'il n'y a aucune efficacité. Il y a des actions avortées par un manque de coordination entre les joueurs offensifs. Et parce que finalement, cette équipe de France, il parle de structure. Moi, je trouve qu'elle en manque. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Et puis défensivement, on va en parler, c'était catastrophique.
Antoine, parlons de Ryan Cherki, qui est rentré donc, en cours en fin de match, à peu près à la 70e.
63e.
Son entrée est plus que notable.
Ah oui, Rayan Cherki, c'est une des rares satisfactions de l'équipe de France. Alors après, évidemment, dans un contexte qui était plus du tout le même, mais quand vous avez un joueur comme lui qui rentre au moment où vous êtes mené 5 buts à 1 et qui réalise le geste qu'il a réalisé pour marquer le but du 5-2, vous dites que ce garçon-là joue pas au même football que le reste de sa propre équipe.
On va écouter Antoine, justement, Rayan Cherki, parlant de son entrée, et on se retrouve.
Je savais que quand j'allais rentrer, il allait y avoir beaucoup d'espace. Donc je suis rentré pour essayer de délivrer un peu plus la situation, de donner des bons ballons à mes partenaires. Maintenant, le plan individuel, on s'en fout un peu. On est un peu déçus de ce qui s'est passé ce soir. Et je pense pas qu'on a démérité totalement. Je pense qu'ils ont juste été meilleurs que nous dans leur temps fort. Ils ont réussi à mettre beaucoup de buts quand il fallait. Quand on voit les stats, je pense que c'est un des meilleurs matchs qu'on ait fait. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué tous ensemble dans le vestiaire. Je pense qu'on aurait dû plus appuyer quand on a eu nos temps forts, mais aujourd'hui, on peut être déçus.
Bon, ils peuvent être déçus. Les stats, ça ne dit pas tout quand même, Antoine.
Non, ça ne dit pas tout. Après, Rayan Cherki, une sélection, un but, une passe décisive. Ouais. Voilà, ça alors se pose là quand
stats,
même
bon.
De rien, c'est un excellent début. Il est certainement rentré 3 minutes trop tard, peut-être qu'avec 3 minutes de plus, avec Cherki sur le terrain, les Bleus auraient pu faire quelque chose, arracher cette prolongation, mais bon, avec des scies, évidemment, oui. On coupe du bois, mais on ne refait pas des matchs de foot. Ce qui est sûr, c'est que la deuxième partie pour l'équipe de France, à partir du moment où Rayan Cherki était sur le terrain, et pas que lui, parce qu'il y a, y a Malo Gusto aussi qui est rentré à la place de Pierre Kaloulou, et Bradley Barcola qui, mine de rien, même s'il n'a pas été décisif, a quand même réussi à se montrer dangereux. Bref, en attaque, on savait que Didier Deschamps avait du potentiel, qu'il avait du monde pour faire des choses, et ça s'est vu. Après, en termes de résultats, évidemment, il va falloir que cette génération-là digère, réussir à gérer cette défaite qui reste frustrante.
Il va surtout falloir trouver une défense. Mais avant d'aborder la défense, Chérif, Rayan Cherki, il donnait une sensation presque d'être un Espagnol qui avait changé de camp quand il est rentré avec l'équipe de France.
Ouais, mais il l'a dit lui-même. Quand il est entré, il savait qu'il allait avoir des espaces. Et en effet, l'Espagne avait procédé à ces changements. Après, c'est bien, il a tiré sur l'épingle du jeu. Non, mais c'est ce qu'on attend des joueurs comme ça à qui on donne une chance. Il y en a qui ont eu leur chance ce soir. Je pense à Kaloulou, mais on parlera après. Mais visiblement, il n'a pas su la saisir, à la différence de Cherki, qui a un peu illuminé. Mais il faudra retrouver ça. Bon, évidemment, maintenant, on pense tous à une future titularisation et non pas un rôle de remplaçant, avec une vraie opposition devant et pas un match qui s'est un peu délité. Mais il a marqué des points.
Mmh. Il a marqué des points. Parlons de cette défense, Antoine. Une défense bricolée à cause des nombreux absents. Aubameyang, William Saliba et Jules Koundé.
Oui, ça a été la partie au moment de l'annonce de la liste. C'était la partie qui était la plus bricolée. C'est-à-dire que sans Jules Koundé, sans Dayo Upamecano, sans William Saliba, vous avez Clément Lenglet, vous avez Loïc Badet, vous avez Pierre Kaloulou qui a été aligné un peu dans une forme de c'est limite un bizutage pour lui, le pauvre, parce qu'il arrive face à la meilleure équipe, vraisemblablement une des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle, qui est l'Espagne, et qui s'est retrouvée dans un état d'euphorie assez impressionnant. C'est vrai que quand on est défenseur et qu'on voit une équipe jouer comme ça, ça donne vite le tournis.
Cette
équipe de France, elle a eu le tournis. Voilà, c'est cette défense bleue, ça n'est évidemment pas la défense numéro 1, ni même le plan B, voire pas le plan C de Didier Deschamps.
Mais le plan,
et ça s'est vu ce soir.
Juste un petit truc, le plan A, on l'a vu en Croatie, c'était la défense type, elle a pris l'eau, elle a pris 2-0 en Croatie. Et pareil, par moment, ils ont pris l'eau comme la défense B ou
C de ce soir
a pris l'eau.
Mayulu, c'est vrai que quand il prend ce
premier Kaloulou, but...
Kaloulou, pardon. Il, oui,
Mayulu, lui, peut-être dans un ou deux ans, qui sait.
Et lui, il marque. Ouais. Il marque en finale. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu, peut-être dès le début, lui qui débutait, ça a dû être extrêmement dur.
Non, mais on l'a senti...
Il offre le premier but.
Déjà, voilà, il offre le premier but parce qu'il coulisse mal et il va sur...
il va aider son copain au lieu sur, de regarder Nico Williams.
Et donc, il libère totalement Nico Williams, à qui le ballon échoue. Il est tout seul pour marquer tranquillement et de très belle manière. Mais il a été déjà, on l'a dit, c'est nouveau pour lui, beaucoup de pression. Il sort d'une saison compliquée. Il a dû gérer un changement de club. Donc, il y avait sûrement d'autres choses qui trottaient dans sa tête. Et puis, il y a une asymétrie dans la défense entre lui et Théo Hernandez. L'un était beaucoup plus chargé de monter en zone offensive que l'autre. Donc, ce qui donnait beaucoup plus de travail à Kaloulou, qui était souvent, qui devait souvent aller compenser. Donc, ça fait beaucoup pour un jeune homme, si on peut dire, ou pour un seul homme. Ouais. Et voilà, après, oui, il n'a pas marqué de points ce soir. Il aurait pu faire mieux, évidemment. Il ne faut pas toujours mettre ça sur les considérations tactiques.
Pour terminer, quel joueur, pour vous, a sorti son épingle du jeu ce soir, Chérif?
Koné au milieu de terrain.
Patrick Juillard.
Dans le 11 de départ.
On pourrait citer Cherki. Oui, je pars du cœur du match, c'est connu au milieu
pour
de terrain.
Pour moi, c'est Cherki qui a tout emporté. Hein, c'est...
Antoine, et vous?
Oui, Ryan Cherki, très clairement. Ouais. Il y a a priori pas trop de débat.
Je pense que le prochain match, alors ça sera la petite finale à Stuttgart, n'est-ce pas? Contre les Allemands, les pauvres Allemands.
Les Allemands revanchards, attention, bah oui, devant leur public.
C'est bien de prendre une troisième place.
Antoine, vous aurez peut-être du spectacle encore et des buts.
Moi, je pars pour Munich pour la finale cette Ligue des Nations entre l'Espagne et le Portugal. Et a priori, là, il y aura du spectacle aussi.
Ouais, et qui sera retransmise sur RFI dimanche soir. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été en direct si longtemps ce soir sur RFI.
Et très bonne soirée à tous.
À bientôt, Wiedersehen. On continue les amis et on va retrouver le débat que nous avions eu en première partie de Radio Foot. C'était autour de la qualification du Portugal, Portugal finaliste avec nos camarades et nous aussi on parlera, vous nous direz un petit mot de cette perspective Espagne-Portugal.
Ouais, bien joué ça, c'est ça. Oh.
Et la frappe.
Et le suspense reste entier. Nuno Mendes.
Magnifique.
Qui mène 2-1 désormais.
Vous avez tous reconnu ce cri, je suppose. En tout cas, c'est un exploit. 25 ans que le Portugal ne gagnait pas face à l'Allemagne. Hier soir, donc à Munich, en pleine Bavière, les Portugais ont battu les Allemands devant leur public et avec une histoire qui se répète ou fait écho. Le premier buteur de la soirée, c'était Francisco Conceição. Et il est le fils d'un certain Sergio Conceição, dont on a souvent parlé ici. Il avait inscrit un triplé contre la Mannschaft. C'était il y a donc 25 ans et le petit n'était pas encore né. Mais vous allez l'entendre quand il a marqué, quand on l'a interrogé, il a pensé à son papa.
Je me sens très fier, surtout d'avoir aidé l'équipe à se qualifier pour la finale, qui était, disons, notre premier objectif. Et bien sûr, je suis très heureux d'avoir marqué ce but contre l'Allemagne. Je sais qu'il y a 25 ans, mon père avait inscrit 3 buts lors de la dernière victoire du Portugal contre l'Allemagne. Je ressens évidemment beaucoup de joie et de fierté pour ce que mon père a accompli et pour ce que nous avons réalisé aujourd'hui en tant qu'équipe. Merci.
L'entrée de Conceição a changé beaucoup de choses hier dans le match, Marco, et les Portugais, ils ont quand même dominé cette équipe d'Allemagne.
Malheureusement, c'est quelque chose qui se passe souvent du côté du Portugal, c'est que les entrants sont beaucoup plus efficaces que ceux qui sont titulaires. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs à Francisco Conceição d'être titulaire et d'être transparent. Donc c'est assez symptomatique en ce moment de cette sélection portugaise. Mais évidemment, quand il rentre, et aussi Vitinha quand il rentre, c'est pas que Francisco Conceição.
Il rentre ensemble, effectivement.
Exactement.
C'est il n'avait pas mis tous les Parisiens.
Le non, il n'en avait mis que deux. D'ailleurs, un joue en Eves sur le côté droit de la défense. Bon, j'arrive toujours pas à comprendre ce choix.
Il innove.
Mais en tout cas, Vitinha, quand il rentre, c'est lui qui prend vraiment le jeu à son compte avec Bruno Fernandes. Et c'est là que l'équipe vraiment change et accélère et arrive à trouver justement ces joueurs qui sont sur les côtés comme Francisco Conceição. Et Nuno Mendes, du coup, arrive à se projeter encore plus. Et c'est les côtés d'où viennent les buts. Et puis, ce but est assez incroyable. Moi, j'aime bien à chaque fois quand même mettre un peu d'eau dans le vin parce que Francisco Conceição, il marque ce but incroyable. Et puis après, il en rate deux qui, pour moi, sont tout faits. Donc, c'est un peu ce qu'on lui reproche d'ailleurs à la Juventus. Et c'est pour ça qu'en principe, la Juventus ne va pas le garder. Il va retourner à Porto parce que c'est un joueur d'un coup. Il va réussir à marquer un but incroyable et on ne peut pas lui retirer ce but. Il est magnifique et c'est vraiment ce qui relance le Portugal. Mais d'un autre côté, là, c'est ce petit manquement à chaque fois. C'est loupé devant les cages.
Marc Libra, cette équipe du Portugal hier, on se posait beaucoup de questions à l'issue de la première mi-temps où les deux finalement se regardent encore et avec les Allemands. Et c'est quand même un exploit, non seulement de défier les statistiques, mais même de défier les Allemands chez eux avec cette équipe qui essaye de relancer Nagelsmann.
Oui, il essaie. Après, la première période, on a une équipe, les deux équipes sont rincées, n'arrivent pas à faire le jeu, c'est très compliqué.
Malheureusement, ça compte aussi.
Il y a ce but qui arrive du seul joueur allemand qui a une cote et qui vraiment a une valeur aujourd'hui. Et puis après, Vitinha qui rentre. À partir de là, Bruno Fernandes peut se projeter. Les latéraux, finalement, ils vont jouer un temps plus haut. Vitinha est très, très fort. Donc, en fait, s'il ne rentre pas, je pense qu'il ne se passe rien. Et Ronaldo, le déclencheur, c'est ce ballon de Mendes sur la 46-47e où il rate son tac. Je me dis, putain, il est un peu court, il y a manqué. Je me suis dit, il y a 4-5 ans, il la met au fond. Et après... Alors, le commentaire de Margot, il est assez drôle parce qu'il dit il n'a plus qu'à le pousser, mais en fait, il faut avoir l'intelligence de jeu pour être là, quoi, en fait. Et c'est vrai que Ronaldo, qu'on le veuille ou non, il se positionne, il fait ce qu'il faut. Il a sauté à un moment donné, saute à la tête. Mm-hmm. Je pense qu'il y a très peu de joueurs aujourd'hui en activité qui sont capables de sauter aussi haut.
Et on
il
se
a 40,
souvient
40
très
ans,
bien.
C'est ça
ouais, mais ouais. Il a des sacrés abdos, n'est-ce pas,
Marc? C'est pas que les abdos, non, mais c'est tout un ensemble
quoi,
qui fait
qu'il tient en l'air.
C'est clair.
Et on se souvient de ce saut, c'était face à la Juventus de Turin, il y a quelques temps.
Plus de 2 mètres.
Comment vous l'avez vu, justement, Manu Terradios, Cristiano Ronaldo, parce qu'il a 40 ans, alors il arrive, il marque son 137e but en 220 matchs internationaux. Il est à 928, c'est ça, ou 930? Enfin, lui, il veut arriver à 1000.
Oui, voilà, 930 et quelques déjà.
Il n'en manque plus beaucoup, finalement.
Cristiano, je crois qu'il n'y a pas trop à dire. Il y a des choses...
Non, mais il a fait tout le match, pratiquement, sauf qu'on le fait sortir pour l'ovation.
Il y a des choses que l'âge change, évidemment, au niveau physique, mais après...
Il court encore énormément,
il va moins vite quand même il joue pour lui, on est d'accord, il joue pour lui, il attend, donc c'est bien
comme toujours.
Non, je suis d'accord. Pas comme toujours depuis, tu es dur, mais
chez les Real, mais voilà, vous voyez, Benzema, il n'était pas tranquille jusqu'à que lui il marquait. Quand Cristiano marquait, Benzema, il était un peu plus détendu pour faire ses... Non, mais il y a des choses qui ne changent pas. Donc son envie de gagner, sa motivation, sa discipline. Donc c'est évidemment qu'il a 40 ans, mais on va avoir un joueur top pour avoir 40 ans. Je crois qu'il n'y aura pas une autre joueur capable de faire la même chose.
Étienne, il était titulaire. Est-ce qu'on a un sélectionneur coincé, Roberto Martinez, ou est-ce que finalement, on a vu quand même dans le résultat, il le marque. Et le score étant de 2-1, c'est lui le but vainqueur.
Mais
et il ne rate pas la mire, lui.
Cristiano, il a changé quand même un petit peu d'attitude parce que quand il a commencé à vieillir à un moment donné, et il continuait à jouer exactement pareil, c'est-à-dire qu'il voulait avoir tous les ballons, il engueulait les coéquipiers quand il n'était pas cherché, trouvé, etc.
Et ça s'est mal passé à la Coupe du Monde de 2022.
Il gênait le développement du jeu collectif du Portugal. Il est intelligent, Cristiano Ronaldo, il a compris que ça, il ne pouvait plus le faire et que s'il continuait sur cette voie-là, il allait être un problème pour l'équipe et qu'il... Il allait commencer à être un peu rejeté par ses coéquipiers. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus cool, beaucoup plus collectif. Il reste dans un rôle vraiment d'avant-centre. Il attend le ballon dans la surface. Il décroche de temps en temps. Il fait des remises. Donc, il joue aussi un petit peu pour les autres, ce qu'il faisait très peu avant.
Marco, est-ce qu'au Portugal, il reste l'incontesté capitaine de l'équipe, l'incontesté titulaire, ou est-ce que quand même on critique un peu sa longévité? Il y en a même qui s'amusent à dire bah, pourquoi pas jusqu'à 50 ans. En tout cas, il va être à la prochaine Coupe du Monde de 2026.
Ah, il pourrait bien y arriver. Non, évidemment, le fait qu'il soit titulaire, ça commence à en agacer certains du côté du Portugal depuis la Coupe du Monde 2022. Le fait que Fernando Santos soit ensuite viré dans la foulée, beaucoup ont assimilé, à tort ou pas, ce renvoi au fait que Cristiano Ronaldo également n'était plus titulaire avec Fernando Santos. Depuis que Roberto Martinez est revenu, eh bien, il est titulaire, indiscutable. Il joue pratiquement à chaque fois les 90 minutes où il sort à 10 minutes avant ou,
pour le faire applaudir.
Comme hier à la 90e.
Pour le faire applaudir par
donc il est un peu prisonnier par rapport à ça. D'ailleurs, Roberto Martinez qui est très critiqué également au Portugal. Donc là, il y a un peu tout le monde qui est critiqué. Mais quand on va avoir un match de la sélection portugaise, on ne va pas avoir un match de la sélection portugaise. Les Portugais vont voir Cristiano Ronaldo. Donc s'il n'y a pas Cristiano Ronaldo
dans la sélection.
Oui, mais ils ne vont pas pour le spectacle, ils veulent voir leur star. Bon,
bah, apparemment,
et les enfants
le stade,
sont déçus s'il ne joue pas, s'il sort. Donc là, c'est plus un coup marketing. Je continue à dire, le Portugal en ce moment
est prisonnier un peu de Cristiano.
Exactement. Mm-hmm. S'il n'est plus présent, ce ne sont plus les mêmes sponsors qui payent autant pour la sélection portugaise, comme la nouvelle marque qu'ils ont sur le maillot.
Antoine, vous qui êtes en Allemagne, Coco, vous êtes toujours là, hein?
Je suis toujours là.
Antoine, moi je voulais savoir, parce que vous l'avez vu ce match, et en plus vous l'avez vu donc à Stuttgart, c'est une nouvelle déconvenue pour cette équipe allemande. Elle ne disputait plus de demi-finale depuis 2016, et c'était face à la France, on s'en souvient, à Marseille durant l'Euro. Mais, en tout cas, hier, ils étaient en demi-finale. Ils ne seront pas, ils disputeront la petite finale, comme dit Didier Deschamps. Est-ce que il y avait une grosse déception? Est-ce qu'on est en colère contre Nagelsmann, qui essaye des choses ou pas?
Oui, on est entre fatalisme et incompréhension du côté de l'Allemagne. Et là, c'est le versant Antoine Grenier, vous voyez, avec le bon accent allemand qui vous parle. En fait, ce qu'on comprend pas bien du côté de l'Allemagne et de la presse allemande, où on explique qu'il va falloir accepter les critiques du côté de la Mannschaft, c'est que en menant un but à zéro sur un but de Florian Wirtz, avec au passage une magnifique passe décisive de Joshua Kimmich qui fêtait sa 100e sélection, on ne comprend pas bien du côté des observateurs pourquoi Julian Nagelsmann s'est empressé de faire 3 changements d'un coup à l'heure de jeu pour répondre aux 3 changements portugais. Pourquoi avoir fait entrer un Niklas Füllkrug qui reste sur une saison quasi blanche avec West Ham, où il a été blessé pendant 2 mois et il n'a pas mis un pied devant l'autre, mais le faire rentrer pour une dernière demi-heure alors qu'on mène 1-0 au résultat? Ça s'est totalement retourné contre Julian Nagelsmann. Et puis ça, c'est la première question. Et puis l'autre, une des autres observations qui vient aux supporters allemands, c'est le but de Conceição est absolument magnifique, sauf que la défense allemande, elle est aux fraises, c'est-à-dire qu'elle est très très loin au moment où il arme sa frappe. Il n'y a personne qui intervient, et ça a été ça un petit peu pendant tout le match. Jonathan Tah fait un très très mauvais match, alors que c'est un futur joueur du Bayern. Bref, ça fait partie des grosses questions, et on s'inquiète du côté de l'Allemagne. Autant on avait vu dans la qualification pour cette demi-finale un aspect plutôt positif, même si c'était contre une Italie qui, on le sait, est un petit peu au fond du seau. Autant on se dit que cette Mannschaft, elle a un plafond de verre qui est très très bas à l'heure actuelle, et qu'elle n'a pas de bande touche qui puisse lui permettre d'aller beaucoup plus haut, en tout cas pour l'instant.
Ouais, c'était la première fois à noter que cette équipe allemande jouait sans aucun des champions du monde de 2014. Et ça, c'était pour la première fois. Alors nous aurons donc cette équipe du Portugal dont on vient de parler et l'équipe d'Espagne dont on parlait tout à l'heure. À quoi s'attendre? Est-ce que les Espagnols vont aussi marcher sur les Portugais de cette façon, selon vous, cher Guémour?
Je pense que ça va être un match intéressant dans le sens où il y a beaucoup de talent des deux côtés. Quand on regarde la deuxième mi-temps des Portugais, là, quand ils font rentrer vraiment tous les joueurs qu'on connaît, qui sont jeunes, qui sont vifs, qui vraiment partent de l'avant, si cette équipe du Portugal de la deuxième mi-temps contre l'Allemagne et l'équipe d'Espagne, ça risque d'être très beau. Ouais.
Mm-hmm. Je pense que c'est la roublardise portugaise contre l'insouciance espagnole, ce match. C'est-à-dire que au-delà du côté ibérique, il y a un petit peu d'un côté un sélectionneur très politique, très malin, Roberto Martinez, qui est espagnol, et de l'autre, son compatriote, qui est plus un formateur, un homme qui a l'habitude de travailler avec des joueurs très jeunes, puisqu'il a été sélectionneur des Olympiques, des U20 espagnols. Et donc, c'est un peu les deux. C'est
le même profil en face.
La jeunesse, oui, mais
le c'est pas le même entraîneur.
Le Portugal, il y a quand même plus de cadres, de joueurs qui ont beaucoup d'heures de vol que l'Espagne. Donc, c'est intéressant et c'est un petit peu quand même le Portugal qui est aujourd'hui un peu... C'est le Portugal d'aujourd'hui, c'est un peu l'Italie des années 90. C'est-à-dire, c'est un football très réaliste avec beaucoup d'entraîneurs très restrictifs. Bon, je sais que tous les Portugais sont en PLS à m'écouter, mais pourtant, c'est un petit peu ça. C'est la suite de Mourinho, quand même.
Et je suis pas d'accord.
Bah, bon, c'est quand même une réalité.
J'ai vu deux visages hier soir.
Oui, oui, mais l'Espagne, il n'y a pas deux visages. Il y a une envie de jouer, quoi. C'est autre chose. Ouais. Alors, ça fait un peu manichéen, ce que j'ai dit, mais pourtant, je pense que c'est en partie ça, la finale.
Quand je vois le petit Conceição, le petit Neto...
Oui, oui, mais il n'y a pas que dans l'équipe.
Neves, Vitinha...
Mendes.
Il y a de l'avenir.
Et puis le gardien du temple, Cristiano Ronaldo, donc. Ouais. Et nous verrons ça. Ça sera donc dimanche soir et le match sera sur RFI.
Ça risque d'être pas mal, hein.
On continue, les amis. On reste dans la langue lusophone. Paraí Sol, Carlo Ancelotti, arrivé depuis à peine deux semaines, n'a sans doute pas eu le temps encore de tester la plage et le soleil. En hiver en plus, dans cet hiver naissant au Brésil. Mais il est allé au Maracana déjà et il a découvert ensuite la Granja Comari, ce clair-fontaine des Brésiliens sur les hauteurs de Rio. Et il a retrouvé les joueurs qu'il a convoqués sur sa liste, bon alors elle a peut-être été et on l'a peut-être aidé à l'élaborer, elle n'est pas sans doute seulement la sienne. Ce test grandeur nature sur la pelouse de Guayaquil, d'ici quelques heures, d'ici une heure à peu près, pour cette 15e journée des éliminatoires sud-américaines, ce sera donc Équateur-Brésil. L'Équateur deuxième du classement, juste derrière l'Argentine, le Brésil seulement quatrième et qui revient de loin. Alors avant de rencontrer le Paraguay à Sao Paulo, eh bien Carlo Ancelotti attend déjà des choses de son groupe et notamment d'un de ses attaquants qu'il connaît si bien, Vinicius Junior.
Bien sûr, nous attendons le meilleur de Vinicius Junior. Je pense qu'il sera à la hauteur, c'est un joueur très important. Je ne sais pas s'il a pu donner le meilleur de lui-même en équipe nationale, mais je pense qu'il a encore le temps de le faire. Je suis convaincu que nous verrons le meilleur de lui en équipe nationale, et tout comme il l'a montré au Real Madrid d'ailleurs. C'est un joueur fondamental pour nous. Il n'y a pas débat là-dessus. C'est un joueur qui peut faire la différence, même s'il n'est pas toujours à la hauteur, mais il est essentiel en raison de ses qualités. C'est un joueur qui change le cours d'un match, toujours, à chaque instant. Nous devons travailler pour l'aider à donner le meilleur de lui-même ici, dans la Seleção.
Est-ce que Vinicius avait besoin de quelqu'un comme Carlo Ancelotti pour enfin marquer de son empreinte la sélection brésilienne, Chef Guémour?
Oui, oui, ça peut l'aider. Oui. Ils se connaissent bien le temps qu'ils sont
en fréquents. En quoi il peut l'aider?
Il peut l'aider. Je pense qu'il y a un rapport de franchise qu'il aura directement parce que comme il débarque, par exemple, est-ce qu'il aura le même contact avec des joueurs comme, prenons par exemple comme Rafinha qui vient du Barça, qui est d'une autre culture, alors que Rafinha a déjà fait ses preuves en club et en sélection, ce qui n'est pas le cas de Vinicius. Et je pense que ça va aller dans les deux sens. Parce que, comment dire, Ancelotti va accorder sa confiance à Vinicius. On sait que c'est le facteur humain important. Mais Vinicius va aussi le servir de guide. Moi, je pense qu'il aura un bon retour sur ce qui fonctionne et ce qui n'a pas fonctionné récemment. Moi, je pense que c'est dans les deux sens. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans cette équipe du Brésil.
Alors que là aussi, on a beaucoup de joueurs théoriquement de très bon niveau.
Voilà, et je pense que Vinicius, ce rapport de confiance et de franchise, je pense que ça va être utile dans les deux sens.
Patrice Juillard, comment vous la voyez cette équipe? Parce que bon, elle est un peu brinque-ballante, ça fait quelques temps là, elle a eu du mal dans les éliminatoires, mais bon, en Amérique du Sud, c'est rare de ne pas participer. Oui, ça devrait passer, c'est au moins 7, hein, je crois, enfin c'est 6 plus 1, je crois, cette saison.
Ouais. Voilà.
Alors, il a rappelé Casimiro, par exemple, une espèce de tour de Pise là, devant la défense. Il a fait un mélange aussi, il y a beaucoup de joueurs du cru.
Il y a beaucoup de joueurs de Flamengo, notamment en défense, effectivement. L'élément qui peut aussi libérer Vinicius, c'est qu'il n'a en revanche, pas rappelé Neymar.
Alors Neymar, c'est vrai qu'il revenait... En gros, il a dit « je veux le convoquer à 100%. »
Sans doute, mais...
Il avait beaucoup énervé les supporters et le Brésil jusqu'à présent.
Peut-être s'il n'y avait pas eu Vinicius, il aurait Neymar. Tout de même rappelé Neymar. Mm-hmm. Et je pense que cette... le fait que Vinicius soit un petit peu le leader de cette première liste va lui le mettre face à ses responsabilités. Il sort d'une saison qui a été très moyenne avec le Real. Bon, il n'a pas digéré en partie la non-obtention du Ballon d'Or.
Du Ballon d'Or, oui.
Et là, je pense que c'est peut-être la renaissance de Vinicius, mais via le maillot Riverge et non plus via celui du Real. Je le vois un peu comme ça, moi. Mais... Après, sur la liste, alors oui, il y a beaucoup de joueurs de talent, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de talent en France ou en Espagne qu'au Brésil. Si vous regardez notamment le milieu de terrain...
C'est moyen, c'est
premier en ligne.
Il y a Guimarães.
Paqueta a dû disparaître. Et ouais. Du coup,
voilà.
C'est vrai que.
Ederson de l'Atalanta Bergame, mais qui est un bon joueur,
bon joueur
de classe mondiale. Et le
pas
reste, c'est
titulaire,
des joueurs qui, à 10 ou 15 ans, n'auraient jamais été appelés en équipe nationale.
Le problème, c'est que, comme l'a dit Patrick, ça manque de talent pur. Talent pur à la brésilienne,
ils sont
qui nous
un peu
dans
le creux, là. Oui.
Et c'est une équipe qui n'a pas d'âme. C'est surtout ça ce qu'on va demander à Ancelotti. Je ne pense pas qu'on lui demande de gagner la Coupe du Monde l'année prochaine. Il part de trop loin, à mon sens.
Au moins redonner un peu de style et de
redonner du
même
style
si
et
lui
de
a dit le premier jour je sais que c'est l'objectif
et ouais. Comment dire
un jeu un peu plus enlevé quoi
pour aller
de,
chercher
de
des leaders
Joga Bonito
un peu plus quoi
je pense que le seul vrai leader pour l'instant une fois de plus je l'ai dit tout à l'heure qui a fait ses preuves en club et en sélection faut d'abord s'appuyer sur Rafinha. D'abord, évidemment, on
alors
attend.
Rafinha, là, il ne joue pas parce qu'il est suspendu pour ce match. Mais
oui,
il jouera
sûr,
celui
bien
d'après
sûr, bien sûr.
Au Brésil
bien
contre
sûr.
Le Paraguay.
Mais à mon avis, le seul homme fort qui a vraiment prouvé, et encore, c'est que récent, c'est Rafinha. C'est d'abord sur lui qu'il faut s'appuyer, redonner confiance à Vinicius, mais surtout s'appuyer sur Rafinha, parce que c'est l'homme
mais
fort.
Mais en sélection, il n'a pas non plus été impressionnant, Rafinha.
Ses derniers matchs, c'était pas mal. C'était pas
oui.
mal. Il a marqué des buts importants.
Est-ce qui est ennuyeux avec le Brésil ces derniers temps, c'est que les joueurs ne... C'est un peu des flambées épisodiques. C'est-à-dire, il y a des joueurs qui peuvent être bons 3-4 matchs. Il y a eu une période
Richarlison.
Il y a eu une période Rafinha, mais c'est vrai que... Et Vinicius, il y a eu un ou deux matchs où on s'est dit, ça y est, il a enfin trouvé la bonne carburation en équipe nationale, mais ça n'a pas duré.
Ça a pas duré.
Et on sent que c'est un peu hésitant, tout ça. Quoi.
En défense, on aura l'indéboulonnable Marquinhos. Hein. Lui, il est toujours là encore.
Toujours.
Toujours. Alisson ouais. Becker,
il va être un peu
dans les
sur
buts.
Les rotules, je pense, quand même, là,
oui,
avec la
doute.
Saison qu'il a fait. Surtout la décharge
il
émotionnelle après cette finale.
Il faut monter
il
à Guayaquil.
Il va falloir revenir, re-switcher sur le foot. Pardon, j'ai employé un horrible anglicisme. Se remettre sur le foot, et ce n'est pas évident.
25 heures d'avion avec les déplacements.
Et puis je pense qu'il va être très sollicité aussi là-bas,
bon, de
médiatiquement.
Façon,
en plus.
Sans doute que ce match de Guayaquil en Équateur ne sera pas le plus important. Le plus important, ça sera celui qu'il jouera à domicile.
Mardi.
Et là, ça quand même ça démontre surtout l'attente que les Brésiliens finalement placent, la population brésilienne place en Carlo Ancelotti, arrivé un peu comme un sauveur de la sélection pour lui redonner du brio. En tout cas, peut-être pas une Coupe du
une
Monde, mais du brio.
C'est ce qu'on attend du Brésil.
Quand on a su qu'il arrivait, les 50 000 places du stade où va jouer le Brésil contre le Paraguay, c'est à Sao Paulo, et elles ont été vendues en 2 heures.
C'est déjà un bon
rapport
marketing.
Donc voilà, si vous vous ennuyez, d'ici une heure, il y aura le match entre
le temps d'arriver.
L'Équateur et le Brésil, oui. Et pour tous nos auditeurs qui veulent changer de chaîne. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour cette
Quelle
folie.
Quelle soirée.
Et rappelons-le, Espagne-Portugal en finale de la Ligue des Nations. Et demain, c'est le Café des Sports. On attend vos cartons. David Finzel est déjà impatient. Merci à tous. À demain.